Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on va continuer ce matin sur la série, une série qu'on a commencé il y a c'est le troisième dimanche, sur le livre des juges dans l'Ancien Testament. Donc on a vu la dernière fois avec le pasteur Samuel que le livre des juges, en fait, on est avec le peuple d'Israël, et ce peuple d'Israël, il est continuellement dans une spirale vicieuse, c'est-à-dire que lorsque le peuple est en paix, il se détourne de Dieu, son cœur suit peu à peu le péché le conduit à l'esclavage de l'idolâtrie, et puis c'est la chute. Et donc l'oppression arrive, puisqu'il a choisi de vivre, de se détourner de Dieu, et puis jusqu'au moment où, à force de résister, il n'y arrive plus, il crie à l'Éternel, et puis l'Éternel lui envoie un libérateur. Et le problème du peuple d'Israël, entre autres, c'est qu'il confie en son libérateur. Mais une fois que le libérateur disparaît, il se détourne de Dieu et rechute. En fait, on a vu que ce qui montre bien que la confiance du peuple repose entièrement sur l'homme au lieu de Dieu. Et en lisant, en parcourant ce livre des juges, on observe que pour libérer Israël, Dieu a utilisé ses libérateurs qui avaient des défauts, qui n'étaient pas parfaits. Et on va voir tout au long de ce livre que ces juges-là, ils ont des défauts de plus en plus évidents. Dieu met en évidence la faiblesse de ces juges pour montrer que ce n'est pas le juge en lui-même qui libère le peuple d'Israël, mais c'est bien Dieu qui libère le peuple à travers de ce juge. Et donc ce matin, je vous invite à le voir à travers du chapitre 3 de ce livre. Du verset 7 au verset 31. Donc je vais lire la version Louis II. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël et les vendit à Cushan Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, de sorte qu'ils lui furent soumis pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint un juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur Cushan Rishéataïm. Le pays fut en paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel donna de la force à Eglon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Eglon rallia les Ammonites, les Amalécites et se mit en marche. Ils bâtirent Israël et s'emparèrent de la ville des palmiers. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Eglon, le roi de Moab. Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Ehud, fils de Guéra, un benjaminite qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Eglon, le roi de Moab. Ehud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 cm, et la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Eglon, roi de Moab. Or, Eglon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Ehud renvoyait les gens qu'il avait apporté. Il revint lui-même sur ses pas, depuis les statues qui se trouvèrent près de Gilgal, et il dit « Roi, j'ai un message secret à te dire. » Le roi réclama du calme, et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Ehud s'approcha de lui, alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été, et dit « J'ai un message de Dieu pour toi. » Eglon se leva de son siège. Alors, Ehud avança la main gauche, tira de l'épée de son côté droit et lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Aiglon. Puis il sortit par derrière. Et il sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder. Les portes de la chambre étaient verrouillées. Ils se dirent, « Le roi fait sans doute ses besoins dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre, ils prirent la clé et l'ouvrirent. Leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils prenaient ainsi du retard, Ehud s'était enfui, avait dépassé les statues et se sauvait à Seïra. Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. » Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des guets du Jourdain, qui se trouvent en face de Moab, et ils n'y laissèrent passer personne. Ils bâtirent à cette occasion environ 10 000 Moabites, tous robustes, tous vaillants. Il n'y eut aucun rescapé. Ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël, et le pays fut en paix pendant 80 ans. Après Ehud, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Et on va s'arrêter ici. Drôle de récit, assez surprenant, assez sur plusieurs points. Et ce matin, si certaines se sont levées du pied gauche, vous allez sûrement, c'est ma prière, pouvoir repartir de meilleure humeur, confiant en tout cas, et avec plus de foi. À travers de ce passage du livre des Juges, Dieu nous enseigne que sa délivrance vient par une source inattendue. D'abord, il choisit des libérateurs au profil déconcertant aux yeux des hommes. Et puis, on va voir qu'il utilise des moyens, des armes improbables aux yeux des hommes. Et puis, on va voir que sa grâce se manifeste d'une manière inattendue aussi aux yeux des hommes. Donc, dans ce chapitre 3, on observe trois juges. Ça commence avec Othniel, et puis une fois que Othniel meurt, la spirale vicieuse recommence. Les Israélites ont fait le mal aux yeux du Seigneur. Et cette fois, Dieu les remet à Eglon, un tyran, le roi de Moab. Le peuple de Dieu ne fait pas face à un seul roi, à un seul tyran, mais à une alliance de rois d'ennemis. Et donc, la soumission est pire. Ils ont même pris la ville de Palmiers. Cette ville de Palmiers et la ville de Jéricho, c'était la première ville dans laquelle le peuple d'Israël avait été arrivé à rentrer. Et c'était la première victoire des Israéliens pour entrer en terre promise. Là, elle a été reprise par l'ennemi. Et donc, comme dans le dernier cycle, spirale vicieuse, les gens répondent à Dieu en lui criant. Ils finissent par lui crier. Et puis, Dieu répond, verset 15, et il leur a donné un libérateur. C'était Ehud, un benjaminite qui était gaucher. Et après, il y a eu un troisième juge, Shamgar, mais il est évoqué juste en un verset, c'était le dernier verset qu'on a lu. Donc on va surtout se focaliser ce matin sur le juge Ehud. Pourquoi on va se focaliser sur lui? Parce qu'il a un profil pour le peuple d'Israël, c'est un libérateur vraiment au profil très déconcertant. Littéralement, le texte dit que Ehud était incapable d'utiliser sa main droite. Alors, soit il avait un handicap de sa main droite et il ne pouvait pas du tout l'utiliser, ou bien simplement il était gaucher, comme ça arrive dans beaucoup d'entre nous d'être gaucher. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, ne pas pouvoir se servir de sa main droite, c'était très, très mal vu. Encore plus qu'aujourd'hui, on était rabaissés. Même si aujourd'hui, des fois inconsciemment, on a tendance peut-être à considérer les gauchers peut-être différemment. Ça m'arrive des fois de dire, par exemple, il y a des expressions, voilà, quand je joue au foot, souvent même ça m'arrive de dire, oh, purée, là j'ai deux pieds gauches, ça va pas. Ou bien, voilà, ou purée, celui-là, il s'est levé du pied gauche ce matin. Voilà, donc c'est une connotation quand même qui, même aujourd'hui, est encore parfois négative. Et donc pour le peuple d'Israël, après avoir eu un libérateur avec le juge, un juge comme Othniel, il avait un profil de leader assez typique. C'est un guerrier d'une famille d'hommes fidèles. Il était issu de la tribu de Juda, la tribu de Juda qui avait été choisie par Dieu pour être le premier à monter dans leur héritage. Othniel, c'était vraiment le profil typique. Donc le peuple ne s'attendait sûrement pas à un autre type de profil pour le délivrer de l'oppression qui était encore pire que celle d'avant. Mais Ehud est un choix surprenant et déconcertant, puisque en plus d'être gaucher, on apprend que Ehud était de la tribu des Benjaminites. Et en fait, à ce moment-là, la tribu des Benjaminites, elle était considérée comme une tribu les plus insignifiantes parmi les autres tribus. Et la cerise sur le gâteau, quand on regarde la signification du nom Benjamin, Benjamin, ça veut dire le fils de la main droite, de la fortune, ou le symbole de la force et de la vertu. Voilà, le comble. Donc dans une société qui était encore plus cruelle que la nôtre, envers les gens qui étaient physiquement handicapés, il était considéré vraiment comme inutile, comme incapable. Donc personne ne l'aurait admiré ou n'aurait naturellement choisi de le suivre ou voter pour lui en tant que libérateur. Pourtant, il est le choix de Dieu. Et ce récit d'Ehud le gaucher nous rappelle que Dieu ne fonctionne pas toujours selon ce que nous, les hommes, considérons comme des méthodes normales ou évidentes. Et à travers de cette faiblesse apparente aux yeux des hommes, Dieu va mettre en évidence sa puissance. Et de cette manière, en observant le récit d'Ehud, on va commencer à voir un gaucher qui marche droit. Peu à peu, on comprend que la condition de gaucher, tellement mal vue par la société, devient finalement un handicap presque parfait pour ce type de situation. D'abord, on comprend que cet Ehud-là, il n'était pas si bête. Il était rusé, il était intelligent. Lui-même avait fabriqué son épée de 56 cm. Ehud était particulièrement adapté à la tâche de délivrance pour laquelle Dieu l'a choisi. Si on revoit un peu, si on reparcourt ce récit, d'abord, il est envoyé en hommage à Eglon, roi de Moab. Alors, un hommage à Eglon, roi de Moab, en fait, il s'agissait de faire une offrande à ce roi, un cadeau, un impôt. Et on sait que ce roi, Eglon, était très friand des cadeaux. Et en gros, il s'engraissait sur le dos du peuple. Et donc, on nous dit que ce que Eglon ne peut pas savoir. Et Ehud avait une épée à double tranchant qui était attaché à sa cuisse droite sous ses vêtements. Et donc, pourquoi on nous dit tous ces détails ? Sous la cuisse droite, les droitiers portaient leur épée d'habitude sur le côté gauche. Et donc, l'épée d'Ehud cachée sur son côté droit avait donc peu de chances d'être détectée. À l'époque, il n'y avait pas les portiques magnétiques des aéroports pour détecter les métaux. Simplement, voilà, déjà, les gardes, la sécurité, vous voyez qu'il avait pas de, il avait, pouvait pas faire usage de sa main droite. Donc, bon, ça va, il n'y a pas grand risque. Et donc, il a présenté cet hommage à Eglon. Et là, le texte précise aussi que Eglon était un homme très gros. En réalité, ce roi avait pour habitude de se faire offrir régulièrement ses présents, comme on a vu avant, et voilà, c'était pour son intérêt personnel. C'était sur le dos du peuple. Et c'est sûrement ce qui explique son engraissement dû à une alimentation excessive. C'était sûrement pas à cause de quelque chose malgré lui, mais c'était de sa responsabilité, il s'engraissait sur le dos du peuple. Donc Ehud et sa délégation repartent après avoir donné ce cadeau, mais Ehud les envoie et se retourne avec un message secret pour le roi. Et puis il parvient à ses objectifs en éliminant Eglon, le tyran du peuple d'Israël. Et donc à travers ça, on voit, on comprend pourquoi et on comprend que Ehud a aussi réfléchi méticuleusement à son évasion. Puisqu'il a fermé à clé la chambre haute avant de s'enfuir, les gardes restent à l'extérieur, supposant qu'Aiglon doit faire ses besoins dans la chambre d'été. Alors, la chambre d'été, c'est un joli nom à l'époque pour nommer les toilettes. Et en fait, ces détails qu'on nous raconte, c'est vrai que ça peut paraître un peu glauque, un peu déconcertant par tous ces faits évoqués. Et parfois, dans des commentaires aussi, on évoque de l'humour noir. Mais Dieu se sert aussi de l'humour pour faire comprendre qu'il est le péché. Dieu a la haine du péché. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime à tous, mais il est le péché, car le péché, c'est la mort. Le péché nous détruit. Et donc, ce récit exalte en réalité la ruse, la détermination d'Ehud, gaucher, qui était rabaissé, qui finit lui-même par ridiculiser le péché, ridiculiser le roi, le tyran Eglon, gros de sa part, de son engraissement sur le dos du peuple. C'est le gaucher Ehud qui lui permet d'en finir avec ce tyran, avec le péché. Mais pour ça, pour arriver à ça, il fallait aussi qu'Ehud ait du courage. Il fallait qu'il soit courageux. Et Dieu utilise le courage d'Ehud et il le bénit. En voyant tout ce que Ehud a fait, on peut comprendre que non seulement de quoi il était capable, il était rusé, il était intelligent, mais on peut comprendre aussi qu'il assumait sans aucun problème le fait d'être gaucher. Il assumait malgré le regard des autres. Ce qui lui préoccupait le plus, peut-être, et on le voit bien, c'était de faire la volonté de Dieu et non pas faire les choses en fonction du « qu'en dira-t-on ». Il fallait quand même avoir un sacré courage pour aller au-delà du mépris, des préjugés du peuple qu'il était censé délivrer. Et Israël ne l'aurait jamais suivi dans la bataille si Ehud, peut-être, n'avait pas obtenu le résultat lui-même en étant seul et en éliminant leur tyran. Ehud avait aussi un cœur disposé pour accomplir la volonté de Dieu. Cet exploit personnel d'Ehud le rend crédible aux yeux du peuple d'Israël. Il peut rassembler le peuple d'Israël. Et il nous en apprend peut-être plus sur la façon dont Dieu sauve son peuple. Dieu utilise les faiblesses de certains hommes qui sont disposés à le suivre pour manifester sa puissance et sa souveraineté. Il transforme des situations apparemment immuables aux yeux des hommes. Et tout comme Ehud était étiqueté par sa condition de gaucher, on peut aussi aujourd'hui nous-mêmes considérer notre prochain comme limité par des critères qui ne correspondent pas aux critères que les hommes construisent dans ce monde, que notre société, que nous-mêmes nous construisons. Est-ce que ça ne nous arrive pas des fois de dire « Ah non, mais cette personne-là, elle est dyslexique, alors du coup... » Elle ne va pas pouvoir... Ah non, mais cette personne-là, elle est sans emploi. Bon, voilà quoi. Ou bien elle a un petit diplôme. Ou celui-là, celle-là est célibataire, tu comprends. Donc, les critères que l'homme invente ne sont pas les critères que Dieu. Et Dieu peut agir grandement à travers de ces personnes qui, à nos yeux, ressemblent à Ehud, et de manière très surprenante. Dieu a libéré son peuple d'Israël, lui donnant le triomphe de ses ennemis et la paix pendant 80 ans par un chef inattendu, gaucher, mais aussi à travers des moyens et des armes imprévues, des armes improbables aux yeux des hommes. D'abord, et on en a parlé ce matin, il y a l'épée à double tranchant d'Ehud. Ehud se dit porteur d'un message de Dieu. On comprend que le message de Dieu consiste à écraser la tyrannie et le péché. Ehud exécute par le moyen de cette épée à double tranchant. Et cette épée, c'est aussi l'image de la parole de Dieu qui démasque le tyran et ses idoles et les anéantit. On peut retrouver aussi dans le Nouveau Testament, comme Samuel nous a lu ce matin, Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Même si ça peut paraître improbable pour les hommes de nos jours, la parole est une arme puissante. Nous avons, quand on a la parole, nous avons une épée double tranchant, non pas pour tuer des hommes, évidemment, mais pour lutter contre le péché qui peut trancher jusque dans le gras des idoles et des grands de ce monde. Et puis, un petit peu avant, avec Othniel aussi, on voit que même si le juge Othniel, qui avait un certain charisme, c'était un homme fort, il était pourtant incapable de sauver le peuple d'Israël par lui-même, par ses propres forces. Puisqu'on nous dit que l'Esprit de Dieu était venu sur lui, verset 10. L'Esprit de Dieu était venu sur Othniel. Sans cet Esprit de Dieu, Othniel n'aurait pas pu. Et dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur certains personnages, en particulier juges, les rois, certains rois, des sacerdotes, des hommes. L'Esprit Saint les inspirait, les formait, les guidait pour accomplir le plan de Dieu sur Israël. Mais aujourd'hui, cet Esprit vient par la grâce de Dieu lorsque des cœurs sont disposés à suivre et à marcher avec Jésus. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour mener la lutte quotidienne contre un géant qui est notre chair. Et cet esprit est une arme pour nous libérer du péché. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. » car il demeure avec vous et il sera en vous. Dans une bataille pour la libération d'un peuple, humainement, on peut s'attendre à ce que des milliers d'armes soient utilisées. Or, souvent, les vérités sont cachées aux yeux du monde, mais elles sont puissantes pour Dieu. D'ailleurs, tout au long des juges, on va voir qu'il y a des armes que Dieu utilise qui sont souvent inhabituelles, qui sont surprenantes. On a vu sur le dernier verset que Shamgar, le troisième juge, avait utilisé un aiguillon de bœuf et avait tué 600 hommes. Dans Samson, chapitre 15 du livre des juges, Samson avait utilisé une mâchoire d'âne. Jaël, on va voir la prochaine fois, qui a utilisé un pieu de tente. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher des mâchoires d'âne, des pieux de tente, des tout ça, pour pourchasser les tyrans de ce monde. Dans sa parole, Dieu montre au monde que son salut ne vient pas d'un super-héros issu d'Hollywood. Non, car pour ceux qui le croient aujourd'hui, le salaire du péché a déjà été payé sur la croix à travers Jésus, par amour de son Père pour le monde, notre Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle que de nous revêtir de cette armure de Dieu, Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances, contre des autorités, contre des pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans ce monde, dans le monde céleste. Il s'agit là aussi d'une arme inattendue et éternelle, celle de la croix. Jésus a délivré son peuple, non pas par un grand triomphe, mais par son propre sacrifice qui écrase nos péchés. Regardons donc vers le Christ et voyons la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Pour le premier épître Corinthiens, chapitre 1, verset 24, il dit « Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » Jésus a remporté la victoire tout seul, une fois pour toutes. Pour son peuple et pour tout homme qui croira en lui. Il n'a pas été aidé de quelque manière que ce soit par d'autres. Tout comme Éhud le gaucher, il a éliminé de façon inattendue le tyran du peuple d'Israël. Jésus, lui, a écrasé une fois pour toutes l'ennemi de l'homme, le péché, par son propre sacrifice sur la croix. Et c'est là la grâce inattendue de Dieu. Éhud le gaucher, finalement, nous pointe vers Jésus, le libérateur le plus inattendu de tous. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe le décrit de cette manière. Ésaïe, chapitre 53, versets 2 et 3. « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. » Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Le salut est venu d'un étranger né dans une crèche. Par la faiblesse, et non pas parce que le monde appelle la force. Par la défaite, et non pas parce que le monde appelle la victoire. Par la folie, et non pas parce que le monde appelle la sagesse. Contrairement à Éhud, Jésus n'a pas utilisé la ruse et la tromperie pour nous libérer. Il n'a pas eu besoin non plus de tuer aucune personne. Pourtant, comme tous les grands juges après Othniel, Jésus était un étranger, quelqu'un que le monde ne pouvait pas croire rapidement qu'il était soit le souverain élu de Dieu, soit son sauveur. Mais la différence avec tous les juges, les prophètes et les libérateurs de l'Ancien Testament, c'est qu'ils n'avaient aucun péché. Ils n'avaient aucun défaut. Il était et il est encore le Fils de Dieu. Et comme il est dit très clairement dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous renvoie donc vers nous-mêmes. Dieu utilise un sauveur inattendu pour les libérer, ceux qui se reconnaissent gauchers, ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et de cette manière, lorsque Dieu nous appelle, il nous amène à nous rappeler notre condition réelle de pécheur. Peu d'entre nous étaient sages selon les normes humaines, peu étaient influents, mais beaucoup étaient de noble naissance. Mais Dieu a choisi les choses ainsi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29, il dit « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de gens de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. » Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Il réconcilie et utilise des gens qui se savent pécheurs, qui, comme Éhude, ont conscience de leur handicap, de la main droite, afin de montrer que le salut vient de lui et non de notre propre capacité humaine. Et Paul dit que Dieu a tendance à choisir et à utiliser des personnes qui sont plus faibles socialement, physiquement et peut-être même moralement. Pourquoi ? Pour qu'aucun être humain ne puisse se vanter en présence de Dieu et se remplir d'orgueil. Savoir tout ça transforme notre cœur et notre état d'esprit, notre condition d'idolâtrie ou de pécheur, que nous adoptons souvent au détriment de notre adoration de notre vrai Dieu. Et quelque part, ce récit du juge gaucher nous amène à nous interroger, en quoi suis-je gaucher à l'image d'Éhude ? Lorsqu'on se tourne vraiment vers Dieu, nous voyons qu'il exige la reddition du cœur, et non des concessions, des négociations partielles, on l'a vu dans le premier message avec le pasteur Vincent, des compromis parfois qu'on fait avec le péché. On ne fait pas affaire avec Dieu, parce que nous n'avons rien à lui offrir. Nous pensions à ce que nous étions, nous apprenons qu'il nous a déjà sauvés, et il nous a bénis de la manière la plus inattendue grâce à la croix, et que nous sommes les destinataires les plus inattendus de sa grâce. Les gauchers, comme nous sommes, nous nous rendons compte que nous ne pouvons dépendre totalement de Dieu, et nous aimons le faire. Comme le dit ce vieil hymne au Christ éternel rocher, « Je n'apporte rien à moi, je m'accroche simplement à la croix. » Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, qui est un Australien, un célèbre prédicateur international, qui est sans bras et sans jambes. Il s'appelle Nick Vujicic. Et cette personne, ce prédicateur, sans bras, sans jambes, je vous cite ce qu'il dit. Je pense que lorsqu'on a un désir passionné de faire quelque chose et que c'est la volonté de Dieu, on finit par y arriver. Nous autres, êtres humains, nous nous mettons constamment des limites sans aucune raison. Ce qui est pire, c'est que nous mettons des limites à Dieu alors qu'il peut tout faire. Nous mettons Dieu dans une boîte. L'aspect extraordinaire de la puissance de Dieu, c'est que quand nous voulons faire quelque chose pour Dieu, au lieu de nous fixer sur notre capacité, il nous faut nous concentrer sur notre disponibilité, car nous savons que c'est Dieu qui agit à travers nous et nous ne pouvons rien faire sans lui. Une fois que nous arrivons à nous rendre disponibles pour l'œuvre de Dieu, savez-vous sur quelle capacité nous nous reposons ? Sur celle de Dieu. Nick Vujicic, sans bras, sans jambes, et aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se sentir appelé pour être leader comme Éhude, mais simplement, de par cette histoire, nous pouvons nous inspirer du courage, du discernement et de la foi de cette Éhude. Nous pouvons faire confiance en un Dieu qui nous équipe, un Dieu qui nous arme pour la bataille de la vie contre le péché, contre la mort. Et si nous expérimentons cela, alors, Dieu voulant, nous pourrons voir la grâce inattendue de Jésus dans nos vies. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes, Seigneur. Et quand on choisit de se tourner vers toi, tout est payé déjà sur la croix, Seigneur. Merci parce que tu nous demandes rien à faire, Seigneur, simplement nous tourner vers toi, Seigneur. Et merci parce que cette histoire d'Éhud nous apprend que, quelles que soient nos conditions, si on se tourne vers toi, tu seras là, Seigneur, avec nous et tu nous donneras la vie, Seigneur. La vie non seulement sur terre, mais la vie éternelle aussi. Seigneur, on veut te remettre nos défis, nos luttes. Et comme le disait Paul, Seigneur, on veut te remettre nos luttes et on te prie que tu nous armes, Seigneur, tu nous équipes pour chaque jour, Seigneur, que tu nous revêtes de ta vérité, que tu nous aides à vivre ton évangile de paix, que tu nous aides à nous saisir de la foi comme d'un bouclier avec lesquels on pourra avancer avec toi. Merci Seigneur pour ton esprit. On te remet nos chemins, Seigneur, et que ton esprit nous accompagne. Et que ta parole, cette épée tranchante, Seigneur, nous accompagne pour faire face à tous les défis et les luttes qui sont liées au péché de ce monde, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.